driver of its economy.
Entrepreneur, on parle innovation.
Investigation, más desarrollo, más innovación.
Vous écoutez les échos de l'innovation.
Mesdames, Messieurs, bonjour à vous, 94.9 FM Graphite, bienvenue sur l'émission Les Échos de l'Innovation. Je me présente, je suis votre présentateur Santiago et aujourd'hui je suis accompagné de Maxime et Pierre-Louis. Bonjour les garçons.
Bonjour Santiago, bonjour Pierre-Louis.
Bonjour Santi, bonjour Maxime. Bon alors Santi, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui, figurez-vous que c'est un thème qui va mener ensemble l'écologie et la sociologie, car on va parler de les modes de transport éco-responsables sont-ils accessibles à tous ou risquent-ils de creuser des nouvelles inégalités ? Voici une problématique assez complète les garçons.
Tout à fait. Alors nous allons commencer par une petite introduction du sujet afin de se remémorer tous les événements. Alors que le dérèglement climatique s'intensifie, la nécessité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre est bien présente. En France, le secteur des transports reste le premier émetteur de CO2, notamment à cause de la voiture individuelle. Face à cette urgence, la transition vers des transports décarbonés s'impose. Le développement du vélo, transport en commun, électrification des véhicules, zones à faible émission, les solutions techniques et politiques se multiplient. Mais une question essentielle se pose, cette transition est-elle réellement accessible à toutes et à tous ? Est-elle possible ? Ou bien risque-t-elle au contraire d'aggraver certaines inégalités sociales et territoriales déjà existantes ? Car si les grandes métropoles se dotent d'infrastructures modernes et si les foyers les plus aisés peuvent changer des véhicules ou télétravailler, une part importante de la population, en particulier en zone rurale ou périurbaine, semble laissée de côté. Coût d'un véhicule électrique, absence de transport en commun, interdiction de circulation, pour certains, la transition peut ressembler à une injonction ou à une forme d'exclusion. Alors, comment concilier une urgence climatique et justice sociale ? La transition écologique dans les transports est-elle une opportunité partagée ou un facteur de fracture ?
Je pense que vous avez dit des termes, Maxime, vous avez dit un terme qui m'apporte et qui me porte particulièrement attention, c'est le fait de l'inaccessibilité de la voiture et de tous ces transports verts à la campagne. Et pour un peu plus illustrer cette problématique, je vous propose d'écouter le bout et le début d'un reportage produit par France 3.
Exactement, France 3, Hauts-de-France, sur la mobilité. Mesdames, Messieurs, l'extrait tout de suite.
Dans les grandes villes, les choix politiques actuels visent à promouvoir des modes de transports alternatifs comme le vélo, la marche ou le covoiturage. Sauf qu'en zone rurale, les riverains ont très peu d'options, que ce soit sur des petites distances ou des plus longues. Les territoires étant étendus, les zones d'activité et de vie plutôt éloignées les unes des autres. Pour se déplacer, le mode de transport dominant reste la voiture. Pour se rendre au travail, pour faire des études, aller faire ses courses ou encore pour les loisirs.
Eh bien oui, mesdames, messieurs, comme vous avez pu l'entendre, la voiture est essentielle pour faire ses loisirs, pour se déplacer, pour aller au travail. Eh bien oui, dans les zones rurales ou périphériques, la voiture est souvent le seul moyen de transport. On manque de solutions alternatives. Les gares sont lointaines, les bus passent rarement et les infrastructures sont assez souvent absentes. Ceux qui n'ont pas les moyens de changer de voiture ou de payer un abonnement vert se retrouvent souvent coincés. Le prix des transports dit écologiques, souvent plus élevé, les met hors de portée d'une partie de la population, particulièrement les classes populaires. Pour les plus précaires, se déplacer, aller travailler, accéder aux soins ou aux études devient un parcours d'obstacles. C'est vraiment compliqué. Et puis, d'un point de vue sociologique, en fait, on voit émerger une forme d'injustice environnementale. Ce sont souvent ceux qui polluent le moins, qui paient le prix le plus fort de la transition, tandis qu'en fait, les plus aisés peuvent s'y adapter plus facilement en ayant un abonnement vert ou une voiture électrique, n'est-ce pas les garçons ?
Et je trouve que ce que vous dites, Santi, c'est vraiment révélateur. Et pour m'appuyer un peu plus sur des termes, il est vrai que parler de transition écologique et de voiture électrique, c'est bien beau, mais ça a un coût. Par exemple, je prends la Tesla Model 3, presque l'entrée de gamme chez Tesla. Elle se situe à 39 900 euros, pratiquement 40 000 euros. C'est un prix déjà pour une voiture que tout le monde n'est pas prêt à mettre. Et à juste titre, une étude d'Ouest France vient sortir le pourcentage que 58% des répondants à cette étude déplorent le prix trop élevé des véhicules aujourd'hui en France en 2023.
Tout à fait. De nos jours, on nous propose des solutions qui semblent à première vue très adaptées face au problème, mais quand on regarde et quand on veut obtenir ces solutions, le prix derrière est souvent très élevé, ne pouvant pas être accessible pour tous les milieux. Et comme l'a dit Santiago, les milieux les plus pauvres n'ont souvent pas la possibilité de se fournir en moyens de transport écologique.
Mais au-delà de nos moyens de mobilité individuelle, et on a aussi les moyens de mobilité publique qui posent problème en France. Par exemple, sur cette même étude d'Ouest-France, 29% des sondés pointent le fait que les prix et les tarifs proposés par la SNCF sont excessifs pour rentrer dans leur budget. On déplore aussi 21% des gens qui jugent que le maillage de mobilité commun en France est insuffisant à la campagne aujourd'hui.
C'est quand même quelque chose à prendre en compte, ça c'est important. Bah, surtout, comme je l'ai dit avant, c'est des milliers de personnes qui chaque jour ont besoin d'un transport efficace pour pouvoir aller faire les courses ou justement satisfaire les besoins vitaux de leur vie. Il y a quelque chose d'intéressant, les garçons, c'est une dimension assez supérieure, mais par exemple, pour passer à un transport au vert 100%, il y a une idée, alors c'est très grand, hein, encore une fois, c'est exagéré, mais imaginez-vous Charles de Gaulle qui émettrait 0% de CO2. Pour ce faire, il faudrait qu'il fonctionne avec, par exemple, de l'hydrogène. De l'hydrogène qu'on appellerait vert, produit justement avec l'électrolyse de l'eau. On met une pile dans l'eau, avec électricité, ça fait de l'hydrogène. Mais pour faire cela, on a besoin de beaucoup d'électricité. Et cette électricité doit être verte pour pouvoir produire cet hydrogène complètement décarboné. Ça rendrait l'avion complètement vert, 0% de CO2 s'il fonctionne à l'hydrogène dans ce cas-là. Mais pour satisfaire la plateforme de Charles de Gaulle avec ça, il y a un calcul qui a été fait, et c'est passé sur France 24. Il faudrait 5000 km² d'éoliennes, 1000 km² de panneaux solaires, ou 16 réacteurs nucléaires. Vous imaginez un peu, les garçons.
Ça me semble être des chiffres complètement démentiels. C'est un beau futur que vous nous montrez, Santiago, là, mais bon, ça ne sera jamais fait, en tous les cas pas en France, je pense.
C'est compliqué.
Oui, on n'a pas les infrastructures pour. Et puis pour ça aussi, il faudrait que, si Charles de Gaulle devient un aéroport vert, des avions verts, il faudrait que le reste du monde suive. N'êtes-vous pas d'accord, Pierre-Louis ?
Si, on rentre pleinement dans le côté sociologique que Santiago nous parlait plus tôt dans cette rubrique. Ici, l'écologie, c'est un effort qu'on peut faire individuellement ou national, mais sur des grands trajets comme ceux réalisés par les avions ou encore les porte-conteneurs ou certains camions, on a aussi besoin d'un effort mondial. Et aujourd'hui, on le voit bien, les instances mondiales sont à bout de souffle. Et il me semble un peu prétentieux que de pouvoir se dire qu'on va développer une aviation à l'hydrogène.
Donc oui, et puis d'un côté aussi, ça représente ce côté un peu inabordable. On a parlé des voitures qui coûtaient cher, voitures électriques, mais là, on parle quand même de quelque chose. Là, c'est une échelle très, très supérieure. Ce n'est pas la voiture électrique pour se déplacer, ni l'abonnement à l'SNCF. Là, on parle de tout un transport qui passe à une énergie totalement décarbonée. Mmh. Mais là, on voit que c'est extrêmement grand, quoi. Il faut quand même dégager une quantité très grande de réacteurs nucléaires. Et bon, sur les moyens, si on est réaliste, bah c'est très compliqué à suivre. Donc voilà ce que peut un peu représenter parfois cette transition écologique directement au vert, quoi. Quelque chose qui demande des efforts, ou de notre côté, oui, mais des gros efforts financiers, voire qui parfois sont complètement dépassés. Mais les garçons, n'y aura-t-il pas quelque chose aujourd'hui d'un petit peu plus rassurant, une façon de se déplacer, quelque chose qui nous montre que même si c'est pas facile, eh bien il y a des solutions, il y a des idées.
En effet, Santiago, pour revenir à des solutions, je pense, plus accessibles pour tous, on va pouvoir s'intéresser aux véhicules intermédiaires. C'est des engins à mi-chemin entre le vélo et la voiture, récemment mis en lumière par Extrême Défi de l'ADEME. En fait, ces véhicules, vous les avez peut-être déjà croisés, ils sont légers, assistance électrique, ils consomment très peu et n'émettent presque rien. Ils pourraient bien révolutionner la mobilité du quotidien. Par là, je vois des véhicules à 3, 2 ou 4 roues. Il ne s'agit pas de prototypes. En effet, pour bien comprendre l'extrême défi de l'ADEME, L'objectif est clair, il faut inventer des véhicules du quotidien consommant moins de 10 à 50 watts au kilomètre, c'est-à-dire 10 fois moins qu'une voiture électrique classique.
Oui, Maxime, je vais reprendre sur ces véhicules et j'entends déjà nos chers Français et les auditeurs se dire que aujourd'hui, je ne me déplacerai pas dans ces véhicules. J'aime bien le confort de ma voiture, je vais pouvoir faire des grands chemins, des longs trajets et je comprends, c'est aussi l'intérêt de la voiture. Mais ici, je vais vous parler d'un film qui est sorti, c'est La Nouvelle Aventure Automobile, un film où on peut suivre le parcours de Jérôme Zindi, qui a fait le Tour de France à bord de l'un de ses véhicules.
Ouh.
Et il a montré qu'avec son tricycle assistance électrique, il est tout à fait possible de faire des longues distances sur n'importe quel temps. Et, sous n'importe quel temps, je vous parle ici de la météo, hein, pas du temps au sens premier qu'on entend,
qui passe,
et MPS. Et son objectif, ce n'était pas d'ailleurs seulement de prouver que ce tour du monde est possible, parce qu'il l'a bien réalisé, mais aussi sur son chemin, il est allé rencontrer différents acteurs économiques des régions pour parler et discuter des enjeux sociaux réels et concrets avec ces nouveaux véhicules. Santi, vous pouvez vous dire plus, s'il vous plaît?
Eh bien oui, en effet. Avec ce Tour de France, comme tu as pu très bien le dire, Pierre-Louis, eh bien il a... pas juste rouler dans tous les temps et fait une très belle aventure, mais il est allé à la rencontre, il a vu des personnes, il est allé voir des industriels, et puis il a montré que sa machine est capable de grandes choses, de faire des distances, de parcourir quasiment toute la France. Et puis, on se rend compte qu'en fait, c'est plus qu'une simple aventure, c'est une véritable sorte de révolution, car ici, M. Zindi a montré que eh ben oui, on peut faire le Tour de France en train, on peut faire le Tour de France en avion, on peut faire le Tour de France en voiture, en vélo si on est grand sportif. Mais nous, on peut aussi le faire à travers des véhicules un peu plus low-tech, un peu plus éco-responsables, une sorte de mobilité douce. Et puis, en faisant ça, c'est vraiment une véritable mise en avant de ce que sont ces petites voitures au design assez curieux, mais avec des grandes promesses, n'est-ce pas Maxime ?
Tout à fait. Certes, ces véhicules représentent de nos jours une très belle promesse. Ils sont économes, souvent fabriqués localement.
Exactement.
Légers, donc moins chers à entretenir, bien évidemment. Ils s'intègrent dans une mobilité douce. Mais cette belle dynamique soulève aussi des vraies questions. Car si ces véhicules sont plus écologiques, ils restent chers pour beaucoup de foyers.
Oui, c'est ça.
En effet, un véhicule à faible consommation coûte entre 4 000 et 9 000 euros. Sans oublier qu'ils sont encore peu présents dans les zones rurales ou périphériques.
Moi ici, je vous reprendrai, Maxime, tout de même. Je trouve qu'entre 4 000 et 9 000 euros pour un véhicule avec lequel on peut faire le Tour de France, ce n'est pas quelque chose de dérisoire. Je veux dire, quand on regarde le marché de l'occasion aujourd'hui, le prix des véhicules s'affole. Et on parle d'un véhicule électrique qui ne consomme pas d'essence, donc qui, en plus, à la longue, peut être un achat rentabilisé par l'économie qu'on fait grâce à l'électrique.
Eh bien oui, c'est bel et bien vrai. On peut faire des belles économies, surtout que bon, c'est une assistance électrique et puis ça marche aussi avec des pédales. Pour certains d'entre eux, celui de Monsieur Zindi avait des pédales, si je me rappelle bien.
Oui, mais bon, il ne faut pas oublier la question des infrastructures aussi.
Eh bien oui.
Parce que ces véhicules, ils nécessitent des pistes cyclables sécurisées, des stations de recharge, des abris adaptés. Et aujourd'hui, on sait que ces équipements, ils sont inégalement répartis et souvent absent des territoires les plus fragiles.
C'est là où on risque une sorte d'effet pervers, en fait. Voir émerger un mode de transport vertueux, mais réservé au final aux centres-villes ou aux populations déjà sensibilisées et équipées. Et pourtant, l'enthousiasme de M. Zindi montre bien que la demande est là. Ce Tour de France lui a donné beaucoup d'espoir, dit-il. Et il a mentionné que le public est curieux, prêt à changer ses habitudes, mais pour cela, il faut que, évidemment, les conditions suivent, il faut que, on a les outils, mais il faut qu'on ait comment les utiliser et bien les utiliser.
Effectivement, Santi, je pense que tout d'abord, c'est au pouvoir public de s'emparer de cette question et de pleinement se porter attention à ce sujet. Il faudrait qu'ils mettent en place des aides ciblées, des aménagements, une sensibilisation et une formation à cet usage. Je reprendrai l'exemple de la trottinette électrique quand elle est arrivée en France. C'est vrai qu'on a vu un nouveau mode de déplacement émerger. Au début, les personnes dessus étaient presque risibles, certaines personnes se moquaient d'eux. Et aujourd'hui, pourtant, c'est presque un fléau, il y en a trop dans nos grandes villes. D'ailleurs, Paris a interdit la trottinette au sein de son agglomération. Et je pense que c'est simplement un coup à prendre, que les pouvoirs publics ont leur responsabilité en donnant cette première impulsion, en finançant ces premiers projets, pour qu'ensuite la population découvre ce moyen de transport qui, pour le coup, comporte de nombreux avantages.
Eh bien oui, mesdames, messieurs, c'est ici de très belles choses. Et je vous invite, si vous êtes intéressés à voir à quoi ressemblent ces véhicules-là, quelles sont leurs promesses, leurs caractéristiques techniques, à aller voir sur le site de l'ADEME, avec le défi extrême. Vous serez surpris de voir que c'est une belle invention, bien organisée, bien ficelée, et de voir aussi tout ce design autour des véhicules qui, je vous le promets, va vous surprendre agréablement. Mesdames, messieurs, après cette première partie de l'émission, nous allons faire une courte pause musicale pour laisser décanter tout ce que vous avez appris durant ces premières 15 minutes. Mesdames, messieurs, courte pause musicale, on se retrouve juste après.
Nous revoici sur la radio graphite de Compagne 99.9 FM pour les échos de l'innovation. Bon retour à tous ceux qui nous avaient pris avant cette courte pause musicale. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. De quoi parle-t-on ? Aujourd'hui, nous parlons de la mobilité avec des consommations et des impacts écologiques réduits.
Eh bien oui, mesdames, messieurs, petit rappel de la problématique. Les modes de transport éco-responsables sont-ils accessibles à tous ou risquent-ils de creuser nouvelles inégalités ? On a parlé des inégalités, du point de vue essentiel des transports pour certaines personnes, pour satisfaire leurs besoins quotidiens. On a parlé d'une belle aventure, les chroniques de l'ADEME, le défi extrême. Et puis maintenant, mesdames, messieurs, nous allons passer à quelque chose de très très intéressant, quand même, à savoir... Allez garçons, je crois qu'il y a le train qui arrive là. Eh ben oui, c'est le bon moment pour parler de cela, car en fait on va parler d'une sorte de mobilité hybride, la voiture flexi de l'SNCF.
Eh oui, tout à fait. L'extrême défi ne sont pas les seules personnes à vouloir trouver un transport moins polluant. On parle beaucoup de mobilité douce, de villes sans voiture et de réduction de notre empreinte carbone. Mais qu'en est-il des zones rurales, des petites communes et des territoires isolés ? C'est là qu'une innovation intéressante a retenu notre attention. Flexi, une navette rail-route développée par la SNCF et ses partenaires.
L'idée est simple et en même temps assez ambitieuse, créer un petit véhicule électrique capable de circuler aussi bien sur une route que sur des voies ferrées, et notamment sur ces petites lignes secondaires qui aujourd'hui représentent près de 5700 km de lignes qui ne sont plus exploitées ou alors très peu. Ces lignes-là, souvent en milieu rural, là où on en a le plus besoin, ou dans des régions peu denses, sont délaissées, alors qu'elles pourraient être une aide précieuse pour ces petits véhicules qui sont encore en développement.
Eh bien oui, exactement. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Alors Pierre-Louis, tu l'as très bien dit, hein, ça voit avec les voies rurales, ça roule aussi sur la route. Alors, Flexi, ça ressemble à une petite cabine, à un petit bus d'une capacité de 9 à 14 personnes, équipé avec des roues spéciales qui lui permettent de rouler sur la route et de passer directement à travers un passage à niveau sur des petites voies, ce qui est assez intéressant et qui peut être important, surtout pour les personnes qui n'ont pas accès aux gares ou qui, justement, ont des gares qui sont complètement désaffectées à proximité de chez eux. Alors, la voiture, le petit véhicule Flexi, est alimenté par des batteries électriques. Donc, il n'y a pas d'émission de CO2 à la source.
Et il est ainsi conçu pour accueillir des personnes à mobilité réduite aussi, et justement transporter des vélos, du petit fret, en plus des 9 à 14 personnes que la cabine peut transporter, ce qui en soi est superbe pour les campagnes.
Tout à fait, mais alors une question se pose, cette innovation est-elle vraiment accessible à tous ? Parce que même si Flexi est conçu pour être économique à l'usage et l'écologie, son déploiement repose quand même sur des investissements publics et des décisions politiques. Certaines collectivités ne pourront peut-être pas se permettre de financer l'installation de ce type de service, oui. Alors que d'autres oui. Et donc, il y a un risque que ces innovations ne bénéficient qu'à certains territoires plus favorisés ou mieux organisés. Et au final, creuser une nouvelle fracture entre zones bien desservies et zones toujours isolées.
Je suis complètement d'accord avec vous, Maxime, et c'est d'ailleurs ce problème-là qu'on retrouve souvent dans la transition écologique. Ici, dans les villes, on a des modes de transport éco-responsables qui se développent de plus en plus. Le vélo, le libre-service, enfin les vélos en libre-service, le tramway, les métros propres, les bus à hydrogène. Mais tout ça, ça se développe dans les grandes villes. Et moi, j'ai peur que cette innovation vienne encore une fois creuser un écart entre les communes qui peuvent se permettre et qui ont des voies de chemin de fer qui passent chez eux, qui peuvent se permettre de les entretenir, ça coûte de l'argent, et les communes qui, encore une fois, seront encore plus délaissées parce qu'elles ne possèdent pas ces voies de chemin de fer. Et on l'a déjà exploré plus tôt, la solution de la voiture reste toujours très coûteuse.
Eh ben oui, alors donc, en soi, pour que ce projet Flexi marche bien, il faut que les villages, même la SNCF, dans la mise en place de ce projet-là, soient accompagnés par l'État, par des politiques publiques assez ambitieuses pour aussi mettre en état les voies, car ça va devenir une sorte de petit train. Et puis, pour permettre justement à ces territoires un peu plus fragiles de pouvoir se procurer un service de Flexi SNCF. Mais en tout cas, en résumé, Flexi, c'est un projet qui est plein de promesses. Il montre que la technologie peut se mettre au service de l'écologie et de la solidarité territoriale, ce qui est très beau. Mais pour que cette innovation soit réellement accessible à tous et qu'elle ne renforce pas les égalités, elle devrait être pensée comme un outil de service public et non comme un simple gadget électronique et technologique. Mais en tout cas, mesdames, messieurs, sachez que la SNCF est déjà en train de travailler sérieusement sur la cabine Flexi de la SNCF avec une sorte de fourgon qui a été habilité pour pouvoir rouler sur des voies. Donc ce sont des choses qui, oui, sont sérieusement en train d'être imaginées. Et puis il y a du mouvement qui se fait là-dessus, quoi.
J'espère, Santi, j'espère bien. C'est vrai que vous l'avez dit, j'espère que ce ne sera pas un de ces nombreux projets qui restent au stade de gadget ou avec une utilisation marginale. Et que devant l'urgence et l'empressement écologique auquel on fait face, il serait agréable que ces projets prennent réellement forme et que des vrais investissements soient faits de temps par nos services publics.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, les garçons. C'est souvent le problème qu'on remarque. Plein de solutions sont mises en lumière. On nous propose des véhicules verts et tout. Mais au final, derrière, on se rend compte que très peu d'entre eux sont utilisés. On a vu les véhicules de l'ADEME qui semble prendre aujourd'hui. Alors, est-ce que cette petite navette de Flexi aura la même possibilité, aura les capacités de réaliser ça? On ne le sait pas encore, on verra bien. J'espère que oui, parce que sinon, c'est dommage. Ça semble être une belle promesse avec cette capacité de redonner vie à des petites campagnes perdues et isolées.
Eh bien oui, ça deviendrait un petit peu le fil conducteur quoi, entre la campagne et puis les grandes plateformes avec les grandes surfaces pour faire ses courses ou encore les grandes villes pour aller travailler, pour aller se déplacer de façon convenable tous les jours et en transport en commun qui justement serait hybride un peu partout. Donc en soi, on a pas mal de projets là, pas mal de choses. On a vu les voitures low-tech, la mobilité douce de l'ADEME, on a vu Flexi de la SNCF, donc c'est quand même assez intéressant les garçons. Donc, comme quoi, il y a bel et bien des solutions qui sont en train d'être recherchées. Hein. On ne ferme pas les yeux là-dessus. Et je trouve ça qui est quand même assez encourageant pour le futur, qu'on regarde quand même pour les personnes qui veulent vraiment se mettre à bouger avec des transports verts, qu'il y a des choses qui se font et puis qui, à mon avis, d'ici quelques années, vont devenir plus accessibles pour les personnes, n'est-ce pas ?
Après, concrètement, c'est est-ce qu'on est prêt aussi à adopter et à changer nos modes de vie pour ces véhicules ? je reprendrai la parole d'un de nos présidents qui disait « Le Français aime bien sa bagnole » et moi je suis assez d'accord avec lui. On aime bien le confort de nos voitures. Donc moi les garçons, ce que je vais vous poser comme question, c'est est-ce que demain, vous seriez prêt à troquer votre voiture, si vous en aviez une, pour un de ces véhicules low-tech et en transition écologique ?
Alors moi je pense que effectivement je serais prêt à utiliser et à acheter un de ces véhicules low-tech parce que cette idée de confort, ce besoin d'avoir une voiture grosse, volumineuse, pour pouvoir faire des longs trajets, est devenu quelque chose de normal chez nous, alors qu'au final, on se rend compte qu'avec ces véhicules, on peut se passer de tout ça. Je pense que le confort ne doit plus être un des premiers critères lors de la sélection de nos véhicules, mais bien l'un des derniers, et on doit mettre en avant le côté pratique et écologique de nos transports.
Eh bien oui, c'est vrai. Et de mon côté, moi, grand enthousiaste de cyclisme que je suis, je trouve que ça peut être très intéressant de prendre une de ces petites machines-là et puis de pouvoir se déplacer comme ça pour aller à l'école, pour aller chercher le pain ou pour même faire des gros déplacements vu que ces machines-là en sont capables, hein, Monsieur Zindi l'a bien montré. Eh bien oui, moi je serais bel et bien prêt à troquer une voiture pour cette petite machine-là. Ça peut être intéressant pour faire des petits déplacements, peut-être pas tout, donc l'intérêt de garder une voiture est quand même là. Mais ça serait quand même pas mal de faire un maximum de déplacements avec ces petits véhicules-là. Et puis en espérant encore une fois que son arrivée sur le marché ne va pas creuser plus d'inégalités, mais plutôt justement le fait de montrer qu'on a une petite machine comme ça, que les personnes les voient et se disent « Ah ben tiens, moi aussi je vais essayer. » Et en plus, c'est pas si cher que ça. Donc pourquoi pas le tenter ? Ça a l'air d'être bien, ça a l'air d'être beau. On se déplace sans émettre de CO2. Donc c'est une belle promesse, hein, c'est plein de belles choses. Et en fait, plutôt que creuser les inégalités, ça pourrait carrément, tout simplement, faire de très belles choses, n'est-ce pas ?
Je suis totalement d'accord avec vous, Santi. C'est des choses à adopter. Dans tous les cas, que ça nous fasse plaisir ou non, ce ne serait pas par bonté de cœur que je troquerais ma bagnole. Mais on doit le faire. Hein. Aujourd'hui, on est devant une urgence climatique indéniable. On se doit d'agir. Et je pense qu'au-delà d'agir et de se poser la question de notre confort, comme je vous l'ai demandé, c'est peut-être aussi notre manière de voir la vie qu'il va falloir changer. On voit que tous ces projets émergent, les mentalités commencent à évoluer. Peut-être pas assez vite, je ne sais pas ce que vous en pensez les garçons. Mais aujourd'hui, on devrait peut-être s'intéresser tout d'abord à l'écologie comme tu as dit Maxime et faire passer au second plan notre confort et cette recherche perpétuelle de toujours plus.
Eh ben oui, mesdames, messieurs, comme l'a très bien dit Pierre-Louis, c'est quelque chose d'assez complexe, cette transition au vert, ce n'est pas facile. Et je propose de peu à peu se rapprocher vers une conclusion pour justement résumer tout ce qu'on a pu étudier aujourd'hui, les garçons. Alors, les modes de transport éco-responsables sont-ils accessibles à tous ou risquent-ils de creuser des nouvelles inégalités ? Eh bien, on a pu voir plusieurs choses. On a vu des cas concrets, l'importance des transports avec un bon reportage. On a vu un beau défi avec des voitures low-tech qui se veulent un petit peu plus accessibles. On a également vu que ce n'était pas simple, passer au transport totalement vert, totalement décarboné. Mais oui, passer au décarboné, ce n'est pas juste une question de technologie, c'est une question aussi assez sociologique. Est-ce qu'on est prêt à faire ce pas-là ? Et puis, est-ce que tout le monde peut avoir accès à ces machines-là ? Le prix d'un transport vert, le prix aussi d'une de ces machines-là ? C'est quelque chose à prendre en compte, donc il ne s'agit pas juste de penser au transport éco-responsable, il faut savoir qu'aujourd'hui, ils peuvent creuser des inégalités, mais on espère que dans le futur, ceux-ci deviendront bien plus accessibles et que tout le monde pourra se les procurer. En tout cas, mesdames, messieurs, sachez que ça a été un véritable plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vous étiez sur Graphite 94.9 FM et c'était les échos de l'innovation. Mesdames, messieurs, merci encore d'avoir été avec nous et on vous souhaite une agréable journée. Merci beaucoup les garçons.
Merci beaucoup.
Jingle générique composé par Joseph Briget, Gabriel Gingembre pour l'émission sous licence Libre Creative Commons CC BY-SA.